Manifeste rien, c'est le nom d'un collectif marseillais qui a un répertoire déjà large de création théâtrale, dont on a déjà entendu parler sur nos ondes. Fanma et Louise, Homo Sacoins, Les Trois Exils d'Algérie, La Domination Masculine, La Marseillaise en bref, Histoire universelle de Marseille, des spectacles dont nous pouvons tirer une analyse critique sur l'histoire et les rapports de domination dans notre société. En 2023, deux membres de Manifeste Rien, Virginie Aymon et Jérémy Béchon, proposent un nouveau spectacle, Les Rafles d'un siècle à l'autre. Et Jérémy Béchon est présent dans le studio marseillais de Fréquence Mistral pour nous en parler. Bonjour.
Bonjour.
80 ans plus tard, avec ce spectacle, vous revenez sur un événement historique de cette ville, la rafle de Marseille, qui a eu lieu du 22 au 24 janvier dans le Vieux-Port. Comment est-ce que vous avez basé vos recherches sur le sujet? Et aussi comment Pascal Luongo, qui est avocat au barreau de Marseille et du collectif Saint-Jean du 24 janvier, vous a aidé dans ce travail de recherche, de mémoire sur l'histoire?
Alors les rafles du 22, 23 et 24 janvier 1943 à Marseille, pendant cet hiver-là, les Allemands et la police française raflent les quartiers de l'Opéra et du Vieux-Port, vident le quartier de Saint-Jean de ses 25 000 habitants, avant de dynamiter le berceau historique de la ville, puisque c'était le lieu même où les Grecs avaient débarqué, donc un lieu qui avait 2600 ans. Et la question qui se pose lors de la commémoration de ces rafles, c'est une question qui n'est pas assez posée, puisqu'on reporte sans cesse la culpabilité. Enfin, puis c'est vrai que c'est les Allemands qui ont mis la dynamite, mais en fait, si on recherche un peu plus dans la documentation, dans les archives, dans les travaux d'histoire et de mémoire qui ont déjà été réalisés, bien on s'aperçoit qu'ils ont travaillé sur les plans, quasi les mêmes plans, d'Eugène Baudouin, qui était un architecte, un illustre architecte
français
qui avait un plan qui avait été fait dès 1941-42. Donc bien avant le dynamitage des Allemands. Et quand on cherche encore un peu plus, on s'aperçoit que cet Eugène Baudouin reprenait les plans de Gaston Castel, qui était lui-même un architecte marseillais, qui était architecte en chef de 1926 à 1941 et qui était chargé d'établir le plan de direction de la région marseillaise. Et ce Gaston Castel reprenait lui-même une inspiration du plan Gréber, qui était un architecte parisien qui était venu travailler avec la municipalité de Marseille.
Donc ces rafles ont été commanditées par les nazis. Pour autant, le régime de Vichy a impliqué et pour autant, ça a aussi permis ensuite un travail de rénovation de ces quartiers qui étaient déjà prémédités avant l'idée même de ces rafles.
Oui, c'est-à-dire, mais même avant le régime de Vichy, puisque Castel était là depuis 1926. Et dès le début, il y a cette idée de vouloir raser, de vouloir détruire entièrement la rive nord du Vieux-Port, sachant qu'ils vont garder ce qui est pour eux noble au sens esthétique, comme l'hôtel de ville, comme l'hôtel de Cabre, comme la maison diamantée, comme la maison de Castel. Il va garder sa propre maison et Baudouin va garder son propre bureau sur le délimité de ce dynamitage, sur lequel ils se dédouaneront en disant que non, c'était pas leur plan, mais il se trouve que c'est quand même étrange que seule leur maison ne saute pas. Il s'agissait de, comme le dit Castel, Gaston Castel, cet architecte lui-même, il s'agissait de vider la ville de la punaise et de l'infamie. Et sur les ruines de ces vieilles masures, bâtir une ville nouvelle. Voilà, ça c'est des phrases ignobles qui ne me sont pas dues, mais qui sont celles qui ont été proférées par Gaston Castel dans des années 20 aux années jusqu'à 43, à ce que les Allemands justement raflent le quartier de l'Opéra. La rafle de l'Opéra ne concerne que les Juifs. Et par contre, le dimanche, la rafle du quartier de Saint-Jean et du quartier de Saint-Laurent, qui était le quartier environnant l'hôtel de ville, concerne les 25 000 habitants.
Les 25 000 sont déportés.
Alors les 25 000 habitants c'est très intéressant, ça aussi, c'est très pervers de la part des Allemands et de la police française, c'est qu'on vient les chercher avec des haut-parleurs qui leur dit attention, une opération sur laquelle qui nécessite votre aide, n'emportez que le strict minimum, gardez vos clés, fermez bien la porte à clé, nous avons besoin de votre coopération pour cette évacuation. Ce qui n'était absolument pas une évacuation, qui était une expulsion et une rafle. Donc sur ces 25 000 personnes, ils vont être expulsés de leur logement dans la nuit, de la nuit au matin. 12 000 d'entre eux vont aller au camp de Fréjus, dans des conditions ignobles. Absolument rien n'était préparé pour les accueillir, sur des paillasses qui ont été souillées, sur des témoignages ignobles, horribles comme vous pouvez l'imaginer. D'ailleurs, un vieillard et deux enfants vont déjà mourir au camp de Fréjus. Les gens qui ont subi ça seront traumatisés à vie. Et sur ces 12 000 Marseillais, il y avait beaucoup de ce qu'on appelait les Napolitains, mais qui étaient en fait des enfants, des Marseillais, enfants de Napolitains, parce que les Italiens avaient très mauvaise réputation à l'époque. Sur ces 12 000 qui sont au camp de Fréjus, il y en a encore 800 suspects politiques qui partent dans les camps de travail et dans les camps d'extermination en Pologne et Auschwitz.
Et c'est seulement ensuite en février qu'ils détruisent toute cette rive nord dont ils reprochaient finalement seulement ce qui était reproché à cette rive, c'était d'être des quartiers populaires en fait, c'était visé pour ça.
C'était extrêmement mal famé, enfin pour eux en tout cas, c'était extrêmement mal famé, et puis il y avait cette idée des élites marseillaises eux-mêmes de vouloir se débarrasser de la plèbe. De se débarrasser de ces quartiers. En plus, ils avaient instauré le fait que la prostitution n'était plus possible que dans le quartier réservé de Saint-Jean, ce qui servait énormément à diffamer le quartier. Bon, par ailleurs, j'ai rien contre les prostituées, mais le reste était fait d'ouvriers, de beaucoup de pêcheurs. Et ces gens-là cohabitaient, comme dans tous les quartiers populaires, non pas sans friction des fois, mais avec une réelle identité de quartier. Puisque ce qui est assez frappant d'ailleurs, c'est que les gens qui sont revenus de ces rafles, énormément se sont relogés rue de la République ou rue de la Caisserie, les délimités de là où les appartements n'étaient pas encore détruits. Donc ils sont revenus du quartier où ils avaient été expulsés.
Et justement, vous faites un parallèle dans votre spectacle avec, vous mettez en résonance donc cet événement qui date donc de 1943 avec les projets d'urbanisation qui ont lieu beaucoup plus tard dans la ville de Marseille et qui sont dus aux projets euro-méditerranéens, donc des rénovations qui ont notamment touché la rue de la République où des anciens raflés, évacués, se sont relogés ensuite. Et pourquoi ce parallèle-là ? Pourquoi ce parallèle ? Justement parce que vous avez pu voir qu'il y a des familles qui ont suivi ce parcours-là.
Pourquoi ce parallèle ? Parce que je pense que moi, quand je lis de l'histoire, ça m'éclaire toujours sur ma propre actualité. C'est pour ça que je travaille sur ces livres-là. Mais après, j'ai toujours peur qu'en faisant une pièce de théâtre, qui est quand même de l'ordre de la culture, il y ait quelque chose qui soit neutralisé dans la tête des gens et qui reste « c'est le passé ». C'est quelque chose qui a été fait, qui ne peut plus arriver, et maintenant les choses sont mieux. Cette idée du progrès, il y a des choses qui progressent, mais je pense que nous sommes dans une régression sociale, dans une forme de fascisation, et je pense que le Covid nous l'a terriblement montré. Il suffit que des gens manifestent, comme les gilets jaunes, pour qu'ils perdent un œil ou un bras, sans que ça n'intéresse personne au niveau des masses médias, au niveau des résonances politiques, à mon sens. Donc les violences sociales sont extrêmement fortes. Et ensuite, à Marseille, moi j'ai vécu en tant que... J'habitais au Panier, donc à l'époque où la rénovation de la rue de la République se faisait, et j'ai vu des vieilles mémées... j'ai rencontré ces gens-là qui se faisaient péter leur carrelage par des faux-maçons, des gros bras qui venaient pour les effrayer, qui ont cassé des canalisations pour que les déjections se déversent dans les cages d'escalier et que du coup on n'ait plus envie de rentrer chez soi tellement ça sent la merde. Donc ce sont des choses qui ont été faites par l'ancienne municipalité, celle de Gaudin, sur le projet de rénovation d'Euroméditerranée, qui est un projet étatique. Qui vient pour soigner l'incurie de Marseille et nos blessures. On a besoin d'eux pour savoir qu'on est impotent, sinon on ne peut pas se débrouiller. C'est le principe de l'assistanat de l'État aux gens qu'ils considèrent comme inférieurs. Et comment ne pas faire le parallèle ?
Parce que ça touche encore une fois des quartiers populaires, quartiers défavorisés. Donc il y a les Crottes, la Cabucelle,
oui,
Porte d'Aix.
Nous on est resté à ce qu'ils appellent Euromed 1, qui était la rue de la République, qui ouvrait un axe nord-sud de la Joliette au Vieux-Port, qui concernait près de 130 000 m² de rénovation déjà, avec des gens qu'il fallait donc reloger. Et des gens qui ne voulaient pas bouger, des petits commerces qu'il fallait aussi changer pour faire des magasins franchisés. Et pour faire ce qui est aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est ce no man's land. C'est-à-dire que quand on va dans la rue de la République, ils ont été obligés de mettre des panneaux figurants, des gens, tellement il n'y a plus rien. Donc comment ne pas faire le parallèle entre Euroméditerranée et qui est ce mélange de l'État, mais qui ne pourrait pas travailler non plus sans les collectivités territoriales, et ces projets d'urbanisation qui ont été faits par les Marseillais, sur lesquels se sont appuyés les Allemands pour dynamiter et rafler donc 25 000 personnes.
Donc d'une part, votre spectacle se base sur une histoire qui est donc la rafle et le nazisme, l'histoire des Juifs aussi, de leur persécution, mais de d'autres communautés, les Tziganes, les homosexuels, et d'autre part sur une histoire collective des projets d'urbanisation qui a lieu donc plus de 1943 jusqu'à aujourd'hui et qui touche encore une fois à des endroits où du social est présent. C'est un peu vos deux thématiques phares. Pour celles concernant les Juifs et cette rafle, vous vous êtes fait aider par Pascal Yongo. Peut-être qu'on peut revenir sur cette aide-là, avocat au barreau de Marseille et au collectif Saint-Jean du 24 janvier, qui a porté plainte contre X, pour crime contre l'humanité, en 2019. Donc finalement, on parle d'actualité de cette histoire qui date de 1943, où il y a encore des zones d'ombre. Donc il y a eu un procès. Et comment est-ce que vous avez travaillé avec cet avocat-là ?
La plainte a été reçue, et elle est toujours en cours d'enquête. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que justement Pascal Longo n'est pas un enfant de juif déporté, mais un enfant de napolitain. Et c'est justement pour ça qu'il a fait ce travail-là et qu'il s'appelle avocat du collectif du 24 janvier et non pas de celle du 22. Il ne s'agit pas de ne pas reconnaître la persécution et la Shoah contre les juifs, bien entendu. Il s'agit de dire que c'était beaucoup plus facile pour l'État français de ne parler que des Juifs raflés, puisqu'il y a eu un travail historique qui a été fait en France. Par contre, le 24 janvier, sur les 25 000 habitants, il n'y a que 200 Juifs qui sont raflés. Comme vous voyez, donc le reste, c'est le tout venant de la population marseillaise qui est en grande partie constituée, encore une fois, de Napolitains et d'enfants de Napolitains et d'Italiens. Après, ce qu'on a voulu montrer, c'est que, par exemple, on est parti un petit peu encore en avant avec les quartiers, le quartier de la Blanquerie et de la Bourse qui a été détruit en 1920 par la municipalité de Marseille sans même savoir ce qu'il ferait à la place. Donc c'est pour ça qu'il voulait continuer en fait à se débarrasser des classes populaires. Et la pièce s'ouvre avec un vendeur de journaux qui vend l'actualité du maire de Flessières qui présente en 1923 les Arméniens comme un lamentable troupeau humain qui se déverse sur la ville et en disant que ces gens-là sont pires que le typhus, la variole et la peste. Donc c'était ce qui était dit à l'époque par le maire de Marseille sur les Arméniens, mais on peut trouver des choses, les mêmes choses ensuite sur les Italiens, comme on peut le trouver sur les Juifs, puisqu'il s'agit, on aime retenir que le racisme ethnique, mais en fait c'était aussi un racisme social qui se met en place à cette époque-là, et pour nous, cette exclusion, cette ségrégation sociale, et non plus raciale, mais sociale, elle est toujours à l'œuvre à Marseille, à travers des projets d'aménageurs de territoire, tels que, par exemple, Coromad.
Et Pascal Yongo, vous l'avez rencontré ?
Oui, Pascal Longo, pardon. Et Pascal Longo, si je n'ai pas répondu à la question. Oui, je l'ai rencontré, et c'est quelqu'un qui m'aide, parce que je le vois encore, là, on s'est vu hier, quand j'ai des doutes sur les chiffres, sur les dates, sur les possibilités, sur les choses qu'on a, parce que la pièce est en cours de création. Et donc c'est quelqu'un qui connaît particulièrement bien le dossier, peut-être même que les historiens que j'ai lus et rencontrés, puisqu'il a travaillé spécifiquement sur cette journée-là et qu'il a récolté des tas de travaux qui ont été faits, mais qui n'avaient pas forcément été mis en commun, parce que les historiens travaillent, mais enfin, ils ne se lisent pas tous entre eux. Et puis, voilà, par le fait de la justice, il a eu accès à des pièces de dossier, les déclarations de Castel, les déclarations de Jeanne Baudouin, des photos qui ne sont pas du domaine public, et il a pu récolter toutes ces données-là, Et donc, il m'aide à l'écriture de la pièce sur l'aspect historique.
Et c'est la rencontre avec cet homme ou votre idée qui a d'abord émergé, qui a permis ce spectacle, ce nouveau spectacle qui s'appelle, on le redit, les rafles d'un siècle à l'autre.
Ce qui s'est passé, c'est comme on avait fait l'histoire universelle de Marseille, d'après Alessie Dell'Umbria, où on traite déjà en partie de cette époque-là. Mais bah, là, c'est tout un spectacle sur cette période, alors qu'on a l'histoire universelle de Marseille. Ce sont 10 minutes qui sont évoquées de la destruction des quartiers du Vieux-Port. En fait, il va y avoir des commémorations, là, la commémoration de ces 80 ans des rafles. Et c'est la rencontre avec Marie Batou, qui est élue, qui s'occupe de l'éducation populaire à Marseille, qui connaît notre travail. Et c'est en discutant avec elle, où elle-même trouvait que dans les précédentes commémorations, c'était bien de le faire, mais qu'il y avait toujours une forme de mémoire antagoniste qui se créait justement entre les enfants des Juifs, les enfants des Italiens, parce qu'ils n'étaient pas traités pareillement par l'histoire et qu'on ne pouvait pas leur jeter la pierre pour avoir des mémoires antagonistes, puisque l'histoire, en termes de rationalité, qui est la seule chose qui peut nous mettre d'accord, n'avait pas été assez faite et n'avait pas été assez divulguée. Et donc, comme j'avais déjà travaillé sur le sujet, ça m'intéressait de faire une pièce. Et il s'est trouvé que Pascal Longo était venu voir l'histoire universelle de Marseille un an avant et qui m'a téléphoné en me disant est-ce que vous pourriez pas développer un peu plus dans l'histoire universelle de Marseille cette question des rafles de 43 parce que votre vision de la ville m'intéresse et qu'elle rentre dans la philosophie de pourquoi il a porté plainte contre X, contre l'humanité, au bureau des grandes instances du procureur de Paris. Et du coup, je lui ai dit, partons plutôt sur une nouvelle pièce, plutôt que de grossir l'histoire universelle de Marseille, qui pour moi est cohérente et ne doit pas bouger de ce qui a déjà été créé.
Et alors, comme vos autres créations, vous mêlez histoire collective avec une fiction d'histoire individuelle. Là, on suit l'histoire d'une famille juive algérienne. Comment vous avez travaillé pour cette mise en récit-là, une fois que vos recherches ont été menées sur le sujet? Est-ce que aussi ces personnages ont été faciles à appréhender, vous sont venus facilement aussi?
Je ne sais pas ce qui est venu facilement ou non, parce qu'en fait, j'ai dû faire la pièce de manière assez vite et j'ai écrit pendant un mois et demi de manière frénétique sans m'arrêter. J'ai fait absolument que ça. Donc, ça m'arrive assez rarement d'ailleurs, mais les choses de la vie ont fait que je n'ai pu faire que écrire. Donc la pièce est allée assez vite et quand je l'ai fait lire, en tout cas, à l'équipe, ils ont trouvé ça cohérent, ils ont trouvé ça intéressant. Les personnages, on présente cette famille, Ima et son père, qui débarquent à Marseille dans les années 1920 à Marseille, justement là où les quartiers de la Blanquerie sont déjà détruits et où ils cherchent leur nouveau logement à Saint-Jean dans le quartier du Vieux-Port. Ces personnages-là, j'ai trouvé intéressant parce que, en fait, ça vient du témoignage de Vanessa Pedro. Enfin, c'est un témoignage qu'a recueilli Vanessa Pedrotti, qui fait les ateliers de médiation avec nous. Et en fait, elle a une de ses meilleures amies, sa grand-mère, s'appelle Ima, et elle a été raflée en 1942, elle, d'ailleurs. Enfin, 1943, mais avant la rafle du Vieux-Port. Et on s'est servi de son témoignage, qu'on a légèrement transféré, parce que là, elle était du quartier de Beaumont, davantage. Mais on s'est servi de toute cette famille-là, qui est juive algérienne, qui avait été exilée, mais qui avait choisi cet exil-là pour venir en France, puisque les Juifs étaient déjà français depuis le décret Crémieux de 1871. Et en fait, ce témoignage-là était vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Donc, ça a lancé comme ça cette famille, sachant que le père, on lui offrait un logement, on lui offrait un travail, le fait d'être cantinier, c'était un blessé de grande guerre, et c'était énorme à l'époque pour quelqu'un des classes populaires qui était mutilé, donc il pouvait plus travailler avec son corps, donc ouvrier, paysan, c'est fini, mais qui pouvait être cantinier et avoir un logement. Et donc, c'est la France qui l'a appelé. Ce qui m'a beaucoup touché dans le témoignage, quand elle parle de son père, Ima, c'est que sans cesse, il disait « mais ça ne peut pas nous arriver à nous ». ça ne peut pas nous arriver à nous. Et quand il a été raflé, un policier, ça aussi c'est toujours intéressant de voir, il y a toujours des exceptions entre le bien et le mal, entre la police française et ensuite les individus. Un policier est venu voir cet homme et lui a dit « Monsieur Lashkar, vous allez être raflé demain matin avec votre famille ». Et il disait encore au policier « Mais c'est pas possible, c'est la France qui m'a appelé. C'est la France qui m'a appelé, je suis français, et c'est parce que j'ai combattu pour elle, et, vous voyez ?» Et ça, j'ai trouvé ça très touchant, et donc ça a permis de lancer ce florilège de personnages, parce qu'il y a près d'une vingtaine de personnages ensuite.
Et ce nouveau spectacle, les rafles d'un siècle à l'autre, donc du collectif Manifeste Rien, il vient à la fois étoffer Histoire universelle de Marseille, mais aussi finalement ça peut être vu comme une suite ou un complément des trois exils d'Algérie, où ça traite justement des juifs d'Algérie, du décret Crémieux. Donc en fait, avoir tous ces spectacles, des connexions se créent.
Oui, cela dit, je croyais en avoir fini avec l'Algérie. J'ai fait trois spectacles dessus, j'avais dit c'est bon, c'est fini, on passe à autre chose. Mais là, il se trouve que ce témoignage est revenu. Mais c'est pas tellement sur l'histoire des juifs algériens, là, les rafles marseillaises, c'est vraiment comment justement le rapport de classe qu'il y a entre les quartiers populaires et puis le monde des aménageurs de territoire qui travaillent avec directement les municipalités ou l'État. Et ce qui pose la question de l'urbanisme. Est-ce que l'urbanisme ne peut être que l'urbanisme du pouvoir ? C'est la question que nous posons.
Alors, cette façon de mêler histoire collective et histoire individuelle, on le disait plus tôt, c'est ce qu'on retrouve souvent dans vos spectacles. Est-ce que pour vous, c'est une façon de rendre des faits historiques plus accessibles au public, de permettre l'identification, ou c'est aussi... Et pour Virginie Hemon, pour avoir matière à son jeu de comédienne qui va interpréter sur scène ses 20 personnages seuls.
Je pense qu'il n'y a que le... Enfin, il y a d'autres moyens hein, de communiquer, bien évidemment, mais je pense qu'en tout cas, le théâtre, nous, dans l'outil qu'on a forgé, est particulièrement efficace pour pouvoir parler à des gens avec qui on n'est pas d'accord. Et moi, ça m'arrive très très souvent, j'ai même souvent du mal à être d'accord avec moi-même. Mais le fait de ce qui est, c'est une phrase que je dis souvent, mais ce qui est prouvé dans la recherche doit être éprouvé par le public. Et si on passe par l'émotion, alors on est capable d'avoir une intelligence décuplée, déjà par le rire aussi, parce que l'émotion n'est pas forcément que le tragique, même si dans notre théâtre les deux s'entremêlent en permanence, parce que la vie c'est celui-là tragicomique sans cesse, permet d'ouvrir une capacité émotionnelle, une capacité d'intelligence, une capacité de tolérance, une capacité d'amour, de compassion et de révolte que je partage moi-même sur scène. Je pense que mes pièces sont meilleures que moi-même. Et je pense que le théâtre, quand les comédiens arrivent à le mettre à ce niveau-là, permet cette forme d'intelligence collective, puisque le comédien sans spectateur n'existe pas. Et c'est en fonction, Virginie Hemon varie toujours son énergie, son jeu, ses improvisations, en fonction de la salle. Et on joue pour des salles tellement différentes, à chaque fois il y a des réactions qui le sont d'autant plus.
Et vous impliquez par ailleurs le public grâce à des ateliers de médiation qui sont animés par Vanessa Pedrotti. Comment ceci se déroule-t-il ? Quelle forme ils prennent ? Et puis surtout, qu'est-ce que vous avez envie que le public se saisisse de votre spectacle ? De quelle thématique ? Avec quel dialogue vous avez envie d'ouvrir finalement avec ce spectacle ? Ça fait beaucoup de questions. Peut-être qu'on peut commencer par les ateliers de médiation.
Non, parce que je suis en pleine création, mais en général, nos pièces racontent un peu toujours les mêmes choses, mais enfin sur la philosophie générale et l'esthétique. Mais d'abord, sur quoi les ateliers de médiation ? Ouais, ce sera plus facile. les ateliers de médiation, menés par Vanessa Pedrotti, permettent déjà, parce que nous travaillons beaucoup dans les quartiers populaires, permet de donner envie aux gens de venir voir la pièce. Parce que, comme je dis souvent, les classes moyennes ou la bourgeoisie sont médiatisées, ne serait-ce que en lisant Télérama tous les jours. Et ils ne vont pas s'en rendre compte, mais ils vont savoir quelle pièce aller voir, ils vont savoir ce qu'est tel artiste ou pas, et avant de rentrer dans la salle de cinéma, ils connaissent déjà le scénario. sinon ils n'iraient pas au cinéma. Donc le principe de l'atelier de médiation, c'est déjà de donner dans les quartiers populaires où on travaille envie de venir nous voir et de savoir qu'est-ce qu'ils vont voir. À partir de là, comme c'est des pièces historiques ou qui travaillent toujours sur les rapports sociaux, il y a énormément de sources bibliographiques, de sources iconographiques qu'on peut utiliser pour montrer ces choses-là différemment que par le livre. Parce que le livre, c'est assez rébarbatif, ça peut être assez rébarbatif pour pas mal de gens, et c'est très individuel. Alors que en se servant d'images, en se servant de musique, en dialoguant, en échangeant avec les gens de l'atelier, en mettant en commun justement l'intelligence collective dont je parlais, qui est synthétisée, syncrétisée dans l'acte théâtral, ça permet de partager ces sources-là et donc de faire venir les publics et ensuite de débriefer avec eux et de voir qu'est-ce qui a été retenu, qu'est-ce qui a été reçu, qu'est-ce qui n'a pas plu. Et ça nous permet aussi, nous, en tant qu'artistes et de chercheurs, de récolter encore à chaque fois de nouvelles paroles, puisque ce sont très souvent les habitants qui connaissent le mieux, qui sont le plus au fait de ces rapports, des violences de ces rapports sociaux-là.
Donc c'est des ateliers de médiation qui auront lieu en amont du spectacle. Et après, est-ce qu'ils sont déjà mis en place? Parce que vous avez bientôt des dates, on peut les dire maintenant, le jeudi 2, le vendredi 3 et le samedi 4 février 2023 à 20h au Théâtre de l'Œuvre. Donc est-ce que les ateliers sont déjà prévus pour avant et après ces dates-là?
Oui, elle bosse, elle est à fond, elle est encore dans la création de ces ateliers parce qu'elle les a
de pas... Ces outils,
de ces outils, ouais, quelles images utiliser, comment les commenter, quel outil d'éducation populaire utiliser pour pouvoir débloquer la parole quand ça va être fait, en fonction de si c'est des adultes, des adolescents, des enfants. Les choses sont différentes, l'outil doit être différent à chaque fois. Oui, puisque dès la première, parce qu'on joue le 2 février, mais on fait une générale le 1er février où il y aura justement les habitants des différents quartiers avec qui on travaille qui viendront nous voir et qui auront suivi les ateliers.
Vous travaillez avec les quartiers de Belzins, aussi peut-être quartiers autour du théâtre Tourski. Quels sont les quartiers avec lesquels vous travaillez là en ce début d'année?
On travaille avec essentiellement avec les quartiers nord, la MPT La Morelle et surtout parce que c'est un partenaire historique pour nous, le centre social de Frévalon, qui est dirigé de manière magnifique, je trouve, depuis des années. Et puis avec aussi tous les quartiers sud. Parce que justement, c'est ce qu'on appelle les quartiers sud à Marseille, c'est un très large périmètre. Donc, il y a Herbel, il y a la Val-Barelle, il y a beaucoup de quartiers. Ouais.
Et pour ce spectacle-là aussi, l'intérêt de peut-être le mettre en avant dans le quartier de la Plaine, dans le quartier du Panier, et peut-être tous les quartiers touchés par Euroméditerranée, peut-être permettre que plus de concertation se fasse autour des projets d'urbanisation.
Et ce qui est intéressant, c'est que... Nous, c'est ce qu'on met en scène à travers les personnages de Steve et de Sylvie de manière très burlesque et en se moquant un petit peu de ces gens-là sur le mode comique, avec énormément de gestuels, en s'inspirant des grands maîtres que sont Chaplin ou d'autres. Le problème de la concertation, c'est que les gens sont prêts à donner des paroles, mais en fait, elles ne sont pas prises en compte. Et comme on le dit dans la pièce... Steve dit à Sylvie, mais la dernière concertation a été une catastrophe, Sylvie. Ces gens-là ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas la complexité de notre époque. C'est ce que disent ces gens-là, puisque nous, il s'agit de protéger notre habitat. Il ne s'agit pas de faire de Marseille une métropole dont l'argent ne nous reviendra jamais. Donc il y a un réel problème qui est nié par les urbains, enfin, ils sont obligés de le voir, les urbanistes architectes, de Romède en tout cas, mais en tout cas, les concertations sont très souvent des concertations fantômes.
Alors ce spectacle, les rafles d'un siècle à l'autre du collectif manifesterien, pourrait aussi s'adresser aux aménageurs et urbanistes, architectes, porteurs des projets, et les faire réfléchir sur leurs pratiques.
Oui et non, parce qu'en fait, si je me permets d'être aussi, peut-être ça peut paraître virulent envers Romed, mais moi j'ai eu ma propre expérience, je vous ai dit, en habitant au Panier pendant 7 ans lors de la rénovation de la rue de la République, donc j'ai quand même été au fait de ce qui s'est passé. Et d'autre part, c'est parce que si on a travaillé avec Pascal Longo sur les recherches historiques de 43, sur Romed, j'ai travaillé à partir de la thèse de Marie Béchon, donc qui est ma sœur, et qui a fait une thèse qui s'appelle « Euroméditerranée ou la ville de papier, ethnographie du monde des aménageurs ». Et il se trouve que, bon, ben là, j'ai un florilège de phrases, si vous voulez, de Romed, hein, qui a été dit directement par des urbanistes ou par les boss de Romed. Ça n'a pas été inventé non plus. C'est-à-dire que c'est le fruit d'une recherche anthropologique. Et ma sœur a été comme une infiltrée. Elle est rentrée dans un stage, en fait, au sein de Romed, et elle a travaillé dans Romed pendant plus de 6 mois, en l'ayant étudié des années avant, et ensuite elle a mis encore des années justement à analyser toutes les données qu'elle avait pu prendre sur les 6 mois de travail qu'elle avait fait. Mais en fait c'était comme une infiltrée, donc du coup elle a eu accès à absolument toutes les petites phrases assassines que ces gens-là se disent entre eux, loin des concertations et loin des conférences de presse.
Donc une thèse à lire.
Une thèse à lire qui devrait être publiée, j'espère, je touche du bois d'ici bientôt, mais une thèse qui est en ligne et que vous pouvez lire, oui.
Est facile d'accès.
Oui. Là, je sais pas, moi je suis mal formé à ça parce que je suis autodidacte, mais je lis des thèses depuis des années. Donc on va dire que si j'y arrive, le commun des mortels peut le faire, mais c'est assez austère, oui. C'est pour ça qu'on a... Enfin, c'est pas la thèse de Marie Béchon qui est austère, c'est le principe de la thèse elle-même qui est... parce qu'ils doivent prouver et reprouver sans cesse ce qu'ils font, c'est le principe.
Et alors pour revenir à votre spectacle, Les Rafles d'un siècle à l'autre, donc on le répète, qui va se tenir au Théâtre de l'œuvre jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 février 2023 à 20h. Il y aura Virginie Aymon sur scène, vous êtes vous-même Jérémy Béchon, metteur en scène, et vous êtes accompagné pour ce spectacle, vous avez fait appel à Cyril Laurent pour la création lumière, mm-hmm. et pour la musique à Franck Vraides et Tom Spectrum. Alors qu'est-ce que la lumière et le son apportent à vos choix de mise en scène ?
C'est énorme parce qu'on travaille la plupart du temps sur des plateaux nus, donc avec soit pas de décor, soit très peu de décor. Là, on aura peut-être un fauteuil, mais un unique fauteuil pour toutes les scènes et d'un siècle à l'autre que balaye la pièce. La lumière permet d'avoir un aspect scénographique. À partir du corps même et des intentions de la comédienne, parce que nos régisseurs sont des gens, et Cyril Laurent connaît très très bien Virginie Aymon, toute leur conduite lumière est faite sur l'émotion même de ce que va donner la comédienne. Donc ils ont leur propre idée esthétique, mais toujours au service du plateau, au service de la comédienne, et jamais une idée va en écraser une autre. Ce qui est un peu le problème au théâtre, quand on prend un scénographe qui va travailler, il va lutter pour mettre son idée, puis à la fin, le comédien va travailler sur un super plateau qui lui fait mal aux pieds, en fait. Donc, nous, c'est l'inverse, c'est vraiment l'idée de pouvoir porter le plus loin possible le propos de la pièce. Chacun doit être au service du travail de l'autre. Et j'aime beaucoup les créations qu'a fait Cyril Laurent avec nous. Ensuite, sur la musique, oui, Franck Vraides et Tom Spectrum, avec qui on a travaillé. Franck Vraides est davantage musicien, et parce que Tom Spectrum, il est musicien, mais également régisseur son et également designer sonore. C'est quelqu'un qui a travaillé, qui a fait des formations dans le jeu vidéo, qui a une palette de création extrêmement vaste et qui va travailler comme on l'avait fait sur Fatma et Louise, avec un son spatialisé, ce qu'on appelle un 5.1, de manière un peu technique. C'est ce qu'on utilise au cinéma, en fait. C'est-à-dire que quand un avion traverse et qu'il nous traverse la tête parce qu'il passe de l'avant de la salle à l'arrière de la salle, c'est un son spatialisé sans qu'on s'en rende compte. C'est des techniques qu'on va utiliser pour cette pièce-là, pour notamment également ces explosions, ce dynamitage. C'est assez terrible, ces coups de porte, parce que les gens, dans les différents témoignages que j'ai lus, c'était ces bah. Ce qui revient dans tous les témoignages, ça a été être réveillé par la violence des coups de poing, des coups de crosse sur la porte. Donc ça, c'est des éléments que je lui ai donnés, explosion, coups de crosse, à partir desquels il travaille, sachant que ça doit rester harmonieux, ça doit pas violenter le public, mais être à la limite de la violence de ce qu'ont subi les Marseillais de cette époque-là. Et il va donner voix directement à la ville de Marseille, qui est un personnage et qui est à la fois l'histoire, la mémoire et l'actualité des habitants.
Un fil narratif qui suit tout le spectacle.
Ouais, qui accompagne. Enfin, après, d'ailleurs, il faut qu'on enregistre cette voix de Marseille. Tout est prêt. Il faut qu'on l'enregistre. Mais oui, ce sera forcément la ligne directrice à travers ces différentes scènes, ces différents quartiers, ces différents siècles.
Eh bien, merci Jérémy Béchon pour
merci à vous.
Votre venue dans le studio marseillais de Fréquence Mistral pour présenter ce nouveau spectacle, toute nouvelle création, Les Rafles d'un siècle à l'autre, qui vient commémorer en 2023 les rafles de 1943. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et on se quitte avec un autre type de Black Lilies.